Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Avec la voix qui me reste, le Bitcoin, on se dirige vers les $73,000. Voilà, il entre à la bourse de Londres, celle de New York. Alors on va poser une question qui fâche. S'agit-il d'une bulle? Attendez avant de ne m'insultez pas tout de suite. Attendez avant de m'insulter, s'il vous plaît. Je poserai juste une question à l'une de mes invitées parce que c'est un débat BFM Business. Est-ce qu'il fallait monter les taux? Est-ce que l'inflation, c'est de la vraie inflation? Est-ce que cette inflation trouve une origine dans la création de monnaie? Ça fait quoi, allez, 2 ans qu'on se bat ici? Et encore la semaine dernière, certains me disaient « mais c'était pas la peine de monter les taux, cette inflation à moitié fantôme allait disparaître d'elle-même ». Pierre Moscovici publie aujourd'hui le rapport de la Cour des comptes, le rapport annuel. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça. Il nous dit « oh, mais le scénario de croissance du gouvernement est improbable ». La situation est sérieuse, elle est préoccupante pour les finances publiques. Voilà. Et d'ailleurs, il n'est pas opposé à l'idée d'un impôt exceptionnel et temporaire. La question fiscale n'est pas tabou, nous dit celui qui est pourtant le père de la célèbre formule du ras-le-bol fiscal. Alors, ceux qui nous promettent un fracas contre le mur de la dette finiront-ils un jour par avoir raison? Et puis, ce chiffre qui étonne, la croissance n'est pas extraordinaire. En zone euro, l'Allemagne est en récession, 400. 40 000, création d'emplois au quatrième trimestre 2023, un taux de chômage au plus bas historique, 6,4%. Comment est-ce possible? Comment l'emploi résiste dans une Europe qui ralentit? Fondamentalement, ce chiffre de création d'emplois est-il ou pas une bonne nouvelle? Bonjour, Nathalie Janson.
Bonjour.
J'ai réussi à faire le programme sans accrocher, comme tout à l'heure à 9h. Fantastique. Professeur à Neoma Business School. Olivier Babot, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous avez publié La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Buchet-Chastel. Rafik Smati, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Vous êtes chef d'entreprise, notamment dans le digital, et vous avez publié Le nouveau temps. Comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA chez Erol. Vous savez que sur l'IA, j'entends plein de petits trucs à bas bruit. C'est les choses qui ne font pas encore la une de la presse, qui ne s'étalent pas encore sur... et qui n'ont pas forcément encore imprégné les esprits. Mais plein d'entreprises disent qu'elles revoient sérieusement leurs effectifs à cause de l'intelligence artificielle.
Ah bah vous avez quand même d'habitude deux façons de voir les choses. Soit on voit le verre à moitié plein et on va perdre des jobs. Soit on essaye de... c'est ce que je fais dans ma propre boîte, d'avoir des gains de productivité grâce à l'IA. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai lancé une activité en Allemagne que je n'aurais pas lancée
sans l'intelligence artificielle.
Donc, je me suis séparé de personne dans mon équipe, mais j'ai lancé un projet que je n'aurais jamais lancé autrement. Donc, je pense que moi, vous connaissez mon tropisme optimiste et volontariste. Moi, je crois que l'intelligence artificielle va être à l'origine d'un bond spectaculaire en matière de productivité.
Alors, moi, j'ai des petits retours, plusieurs. C'est quand même avant la création.
Mais ça va être les deux, Nicolas.
Mais et la révolution, ça va être sévère. Quoi.
Mais ça va être
rapide.
C'est un processus qu'on connaît tous ici de destruction créatrice.
Oui, non. Alors je suis pas d'accord.
Mais si,
ben, je suis pas cette fois-là.
Mais on va passer.
C'est pas comme les médias à tisser, Rafik.
Mais on va passer dans une grosse Non, mais je connais votre théorie. Vous dites qu'on est en train de passer de l'intelligence
carbonée à l'intelligence au silicium.
C'est vrai.
Ah oui, mais c'est pas comme le fait de remplacer un métier par une machine.
Bon, enfin, quand vous êtes séparé des animaux. Pour passer sur des robots, c'est un changement de paradigme d'une nature comparable. Et pourtant...
Non mais l'histoire vous donne raison. Et j'ai un peu l'impression que c'est pas la même dimension, c'est pas la même rapidité, c'est pas donc dans l'agenda ça va plus vite, et au niveau planétaire c'est pas réservé à un pays.
Chaque révolution industrielle est exponentiellement plus importante que la précédente. Ouais. Ça c'est une constante. Bah, il faut s'adapter et essayer d'en tirer profit. C'est ça l'enjeu.
Vous êtes d'accord, vous
Non, moi, je suis très partagé. Je doute beaucoup. Effectivement, il y a une possibilité de croissance folle et de suppression des emplois. Et en même temps, je sais que les besoins humains sont infinis. La partie de l'économie qui subvient à nos besoins matériels, c'est-à-dire vraiment boire, manger, finalement, c'est tout petit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout le reste, notamment par exemple le divertissement, ce sont des besoins qui sont apparus. Il y aura d'autres besoins. Peut-être que le travail humain va gagner en valeur prodigieusement parce que justement, l'intelligence va devenir une sorte de robinet de commodité. Et donc, le travail vraiment humain, le travail du cœur ou le travail de la main, peut-être d'ailleurs l'imperfection, va regagner en valeur. Regardez Taylor Swift. Le spectacle vivant, plus de 2 milliards si je ne me trompe pas de chiffre d'affaires, le spectacle vivant retrouve un lustre extraordinaire et ça le numérique, bon. Même les robots ne pourront pas le prendre, voilà. C'est la vision optimiste.
Il est donc plus que jamais temps d'investir dans le capital humain. Je fais référence au combat de Xavier Jaravel que vous soutenez
toujours.
On aura l'occasion de reparler de ces phénomènes, mais d'ailleurs on en reparlera quand on parlera des 440 000 emplois créés avec une faible croissance. Est-ce que c'est une bulle, Nathalie Janson? Alors vous faites partie des personnes expertes et plutôt attirées par le phénomène de la crypto-monnaie. D'ailleurs, vous utilisez le mot monnaie.
J'assume totalement.
Là où moi, j'utilise le mot actif.
Oui, ça fait quand même un petit moment que je suis ce charmant. Comme tous ceux et toutes celles qui recherchent, je n'ai évidemment pas acheté quand je l'ai regardé à 100 dollars il y a fort longtemps.
On peut l'avouer.
Même pas. J'ai trouvé ça trop compliqué à détenir, donc j'ai pas voulu le faire parce que fallait montrer son, fallait faire déjà du KYC. J'ai dit mais c'est quoi ce truc? Moi, j'ai pas du tout envie de montrer mes papiers d'identité. C'est pas grave, j'en achète pas. Voilà, comme quoi on prend des mauvaises décisions.
Vous en avez acheté jeudi dernier à 69 000 ou mercredi dernier, vous auriez gagné puisque quasiment 73 000.
C'est ce que je dis à mes élèves tous les jours, je leur dis, est-ce que vous avez acheté du bitcoin pour payer vos vacances cet été?
Non mais il faut rappeler qu'il y a 6 000 cryptos.
Oui, même plus, oui, il y en a un nombre infini.
Alors l'Ether, là, il va repasser les 4 000 dollars. C'est un monde plein d'aficionados très très affûtés. Je me suis fait reprendre ce matin parce que j'ai eu le malheur de dire que l'Ether au-delà de 4000 était proche de ses records. Non, c'était bien au-delà, c'était à 4700.
Oui, c'est ça.
21, je crois.
Donc
il faut jamais dire de bêtises sur les cryptos. Mais moi je pose une question qui fâche. C'est une bulle?
Alors, c'est une bulle, ça c'est une bonne question. Ça faisait l'objet d'un article très très bien écrit qui a été cité pas mal de fois dans le Financial Times qui disait écoutez, une fois ça va, deux fois ça va, là on en est à quatrième, on n'a jamais vu une bulle qui se relevait quatre fois, d'accord. Donc si vous prenez
bien
les
vu.
Voilà, donc c'est pour ça que cet article était plutôt bienvenu parce qu'il disait bon, maintenant on va peut-être arrêter de parler de bulle. Là le Bitcoin est clairement est dans une phase, enfin je veux dire, il est là, il a pris un espace, il est même effectivement il est plus performant que l'Ether en termes d'évolution dans ces derniers là depuis le l'hiver crypto, c'est celui en fait qui performe le plus, donc il est
triplé
même
il est
à nouveau la monnaie, si on veut bien l'appeler comme ça, reine des cryptos.
Donc vous voyez vraiment le Bitcoin d'un côté et le reste du crypto.
Alors l'Ether évidemment est bien toujours là, mais on voit bien que là c'est un moment Bitcoin, et c'est effectivement c'est un moment Bitcoin parce que il y a deux choses cumulées essentiellement, où on en verra aussi d'autres, mais disons que le fait que on a eu ces ETF qui justement aux États-Unis, qui s'adressent comme à des gens comme moi qui trouvaient ça compliqué de détenir du Bitcoin, et bien là en fait des ETF, vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir comment ouvrir votre compte ou détenir vos bitcoins, puisqu'en fait vous ne les détenez pas vous, c'est donc le BlackRock qui les détient. Et là on voit
premier fonds du monde, exactement. 12 milliards de bitcoins amassés en l'espace de combien un mois.
Exactement. Donc on voit un peu ce qui s'est passé sur FTX en fait revenir, mais là avec des meilleures bases, puisque effectivement on a compris que des nouveaux acteurs sur ce marché pouvaient ne pas toujours être fiables. Là c'est BlackRock qui va douter que BlackRock va faire des montages bizarres. Donc effectivement les investisseurs en particulier qui étaient intéressés par le Bitcoin, eh bien ils reviennent, puisque c'est BlackRock, ils ne vont pas détenir les eux-mêmes les Bitcoins Bitcoin, donc c'est plus facile. Donc déjà, le test de du succès est passé, c'est-à-dire que effectivement, avant, quand on disait que les autorisations allaient venir, on se demandait toujours si la demande allait être au rendez-vous. Elle est au rendez-vous, ouais. Elle a même dépassé les attentes. Et là, il faut savoir que en Angleterre, il y a des demandes d'autorisation en cours et on pense qu'elles vont être données.
À la Bourse de Londres a autorisé.
Oui.
Alors c'est un produit plus technique.
Oui, plus technique. Encadré. Mais néanmoins, il y a quand même l'ETF qui sera derrière. À Hong Kong, c'est pareil. Donc, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de potentiels futurs ETF qui vont être lancés. Et donc, si la dynamique continue, c'est d'autant plus. Deuxième élément, effectivement, il y a ce fameux halving qui arrive. Donc, ça veut dire qu'en fait...
On va rappeler, hein, oui. Tous les 4 ans à peu près, ça devrait se situer aux alentours du 19-20 avril. Ça va avoir pour effet de réduire la rémunération des mineurs de Bitcoin et donc de resserrer les quantités.
Voilà, la quantité, elle va passer de 900 Bitcoins jour à 450. Donc, quand vous avez un marché où 70% des Bitcoins ne circulent pas, parce que c'est ça aussi, il faut savoir, hein, 70% des portefeuilles de Bitcoin, en fait, ne circulent pas. Donc, ça veut dire que la masse circulante, donc là où arrive la demande, elle est petite. Mmh. Et qu'il y en a 450, enfin, ça va passer de 900 à 450, bah forcément, ça donne encore plus d'augmentation du prix en anticipation de ce halving. Donc, le halving qui a souvent, effectivement, cet effet de hausse des prix, eh bien là, est encore plus renforcé par cet effet de succès des oui. ETF.
Alors, parce qu'en fait, le halving, généralement, l'effet d'appréciation est post-halving.
Oui. Là, il intervient avant.
Notamment porté
mais nourri par les ETF. Et puis, si on veut finir, on peut faire aussi parallèle avec les risques potentiels, enfin les tensions géopolitiques. Et là, on retrouve un peu, effectivement, ce parallèle avec l'or, puisque il y en a effectivement qui se disent, je vais plutôt aller sur d'autres actifs que. Et puis, parce que pour diversifier son portefeuille, pour. Voilà. Donc, il y a la perspective de baisse des taux. Enfin, tout ça, ce sont des arguments en faveur pour des investisseurs de vouloir investir ailleurs.
À part que l'or, généralement, il n'y a pas vraiment de rendement. On attend plus de la sécurité, tandis que le bitcoin, on peut imaginer. Bon, mais donc voilà, jamais 4 bulles, ça s'est jamais vu, donc il n'y a pas de bulles.
Voilà,
est-ce que vous êtes convaincus, messieurs Smati et Babo, par la démonstration de Nathalie Janson, qui fait quand même partie, dans le cercle de mes invités, de celle qui a toujours tenu le même discours par rapport à ce qu'elle appelle des cryptos monnaie. Bien qu'on ait le débat sur monnaie ou pas monnaie, pour moi, ça se discute. Rafik.
Pour moi, c'est un crypto-actif aussi. C'est-à-dire que c'est une monnaie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des transactions en Bitcoin, mais c'est lourd, c'est lent. En revanche, c'est clairement un actif puisque beaucoup l'utilisent comme un placement. Moi, il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire dans la relation au Bitcoin. Et évidemment, je suis d'accord avec vous sur le fond. C'est qu'il y a quelques années, j'en parlais avec des économistes, avec des personnes de l'univers de la finance, et ils me sortaient le fameux, et Dieu sait comme j'ai entendu ça depuis 25 ans que je suis entrepreneur, le fameux « ça ne marchera jamais ».
Oui, oui.
À chaque fois, Madame Lagarde, elle n'a pas un mot pour défendre
le... Elle n'a pas fait de théorie monétaire dans sa vie.
À chaque fois que vous avez une innovation de rupture dans quelque domaine que ce soit, vous avez le fameux « ça ne marchera jamais ». Un « ça ne marchera jamais » qui passe 4 bulles, moi je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à ça.
Voilà.
On sait ce qu'est le Bitcoin aujourd'hui, je crois qu'il est très difficile d'imaginer ce qu'il peut être demain. Oui. En tous les cas, on est rentré dans un système nouveau et il n'y aura pas de marche arrière. Le système des cryptos, c'est irréversible. Et par principe de vase communicant, les fameuses monnaies numériques qui sont aujourd'hui en latence, c'est là aussi irréversible, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer, et dont on peine d'ailleurs à imaginer les contours aujourd'hui, tellement si on tire le fil, ça en devient vertigineux.
J'entends, Rafik, j'ai toujours un petit peu de mal à imaginer que vouloir faire une monnaie banque centrale numérique, c'est une sorte de réaction à la présence de crypto-monnaies sur la blockchain.
Si, surtout les stablecoins, si.
Ah oui.
Si, quand même.
Moi, je veux bien qu'on...
Oui. C'est une façon aussi politique en termes de message de dire on y est. On y est, nous, la Banque
Centrale
Européenne.
Contre la Chine, certainement.
La Banque Centrale Européenne, qui avons signé avec vous, citoyens d'Europe, un pacte de confiance, on est sur ce terrain-là et vous allez pouvoir nous faire confiance. Sauf que une monnaie numérique entre les mains d'une banque centrale, c'est différent. Ça a la possibilité d'émettre de la monnaie nouvelle avec une date d'expiration, avec la possibilité de pouvoir flécher certaines monnaies, de faire tourner la planche à billets. Bref, ça peut aller très loin, et y compris d'un point de vue démocratique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon livre Le Nouveau Temps, j'en arrive en tirant le fil à arriver à la conclusion que un jour nous serons sans doute obligés de d'élire le président de la Banque Centrale Européenne au suffrage universel direct.
Car ce sera l'homme le plus puissant du système.
Tellement il aura entre les mains tous les leviers de toutes les politiques fiscales, sociales et écologiques. si on tire le fil, voilà où on en arrive.
Ah mais il y a aujourd'hui des débats, des chroniques dont, qui se posent la question de la légitimité démocratique de la Banque Centrale Européenne.
Ça doit-elle fait longtemps, être... mais elle revient
de toute façon. Est-ce qu'il faut repenser? Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que cette politique monétaire, il y avait le mot politique dedans, et que c'était une politique monétaire qui pouvait pratiquement parfois s'apparenter à de la politique budgétaire. Ça peut nous ramener au fameux débat qu'on a eu récemment avec Jésabelle Coupé-Soubéran et l'histoire de l'euro volontaire. On ne va pas recommencer ce débat aujourd'hui, mais vous êtes convaincu, Olivier Babeau, par la crypto. Alors, je ne sais pas, monnaie ou actif, quel mot vous mettez?
Alors, moi, je mettrais plutôt actif. Désolé, mais
on est,
moi, je suis en tout cas.
Contre un.
Oui, je suis plutôt un crypto-enthousiaste depuis le début. Vraiment, ma position. Voilà, d'ailleurs, le premier rapport de Sapiens avec Yorick de Montbine et Gozak Grandval, ça s'appelait Bitcoin Total.
Le meilleur,
au début,
papier qui a été écrit sur la question.
Il est toujours en ligne, il est disponible, c'est gratuit, vous pouvez y aller. L'idée, c'est effectivement depuis longtemps de suivre ça et on n'a pas dévié sur notre position. Bon, c'est vrai que si on regarde l'histoire des grandes bulles, si vous prenez les bulles de tulipes, la compagnie des mers du Sud, le Mississippi, les gens se font avoir une fois, mais enfin, après c'est terminé, ça ne revient plus jamais. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus que ça dans cette affaire. Si vous prenez les trois fonctions de la monnaie, n'est-ce pas, qui sont réserve de avant de réserve de valeur, étalon de mesure.
Oui.
Bon, étalon de mesure, vu qu'il y a une fluctuation qui est quand même assez forte, c'est pas génial.
L'échange, étalon de mesure, par exemple, le baril de pétrole se mesure en dollars.
Voilà, voilà. Et en fait, c'est pas idéal pour l'instant. En tout cas, il faudrait beaucoup plus de stabilité. Pour l'instant, la fluctuation est trop forte. Si vous prenez le moyen d'échange, c'est encore trop compliqué. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains bars hyper branchés où tu peux payer en bitcoin, mais enfin, globalement, c'est pas idéal. En revanche, en termes de réserve de valeur, je crois déjà aujourd'hui, c'est devenu un actif qui est utilisé.
Alors, réserve de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fait une épargne.
Tu fais une épargne, tu peux le mettre en or, tu peux t'acheter du lingot, tu peux t'acheter de la pierre papier. L'idée, c'est que tu as ici une forme de réserve. Alors, moi, depuis toujours, je dis aussi, n'y mettez l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est un petit peu le conseil du casino, même si plus ça va, plus je pense que ça n'est pas de casino. Alors, la vraie question est, usque non accendet? Jusqu'où cela montera-t-il? Jusqu'où cela ne montera-t-il pas?
100 000.
Et alors,
j'entends 100 000 cet été.
Bah là, 100 000, oui, est revenu devant la scène à cause, effectivement, de tous ces phénomènes combinés.
Mais
moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, on va aller aux 100 000, probablement à plus, parce que si justement ça marche, ça, il n'y a virtuellement quasiment pas de limite.
Ah, mais il n'y a virtuellement pas de limite.
Soit
il n'y a pas de limite à la baisse non plus.
C'est Yorick de Montbine.
Il n'y a pas de limite à la baisse non plus.
Ah non, mais de toute façon, moi, je suis.
Soit c'est zéro, soit c'est beaucoup plus.
Si elle se fait remplacer par quelque chose de plus efficace, elle sera à zéro. Ça, il n'y a pas de doute. Mais pour le moment. La raison pour laquelle moi je tiens à monnaie, c'est parce que ça a été conçu, c'est-à-dire que le design, il est pour une monnaie, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, du transfert des paiements,
ça
a été conçu comme une monnaie.
Oui.
Bien évidemment, une monnaie, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est ce que j'explique souvent, c'est pas les fonctions, ces trois fonctions, elles sont pas arrivées d'un seul coup.
Je rappelle, outil d'échange, de réserve et de mesure.
Même l'or, quand il est né or, il est pas devenu tout de suite moyen d'échange pour tout le monde, mais effectivement, effectivement, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord que le moyen de paiement n'est pas dominant, ça c'est clair. Ça doit représenter, je ne sais pas, 10 à 20% de ses fonctions. Et qu'aujourd'hui, c'est effectivement, il est surtout détenu en investissement. Mais il ne faut pas non plus minorer le fait que dans d'autres pays qui ne sont pas les nôtres, il est apprécié comme monnaie, comme moyen de paiement, parce qu'il y a des monnaies qui ne sont pas efficaces et qui ne tiennent pas leur rôle. Ça protège contre la coercition de l'État et la répression financière qu'il y a dans des pays. Il ne faut pas l'oublier. Donc, parler aux Argentins, aux Libanais, ils sont... Alors, moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir des Libanais dans mes cours, mais ils étaient dithyrambiques et ils faisaient la leçon à leurs petits camarades. Mais vous comprenez pas ce qu'apporte le bitcoin chez nous.
Oui. Il faut pas oublier qu'au départ, c'est un projet quasiment philosophique. L'idée, c'est de ne pas dépendre d'un tiers de confiance et surtout d'enfin avoir une monnaie sur laquelle l'État ne met pas ses grosses pattes
velues.
C'est ça.
Et c'est ce qui fait la force, c'est ce qui fera la grande force de cette monnaie qui est structurellement déflationniste. C'est-à-dire que comme le nombre est limité, tu vas pas pouvoir marcher la planche à billets et plus à côté cette planche à billets, malheureusement, a marché et plus elle marchera, plus le bitcoin en fait gardera en puissance.
Exactement.
À côté. Voilà, pour ça que. Mais mon pronostic est plutôt favorable. Je suis encore à l'achat.
Non, mais je trouve que le sujet, en tout cas.
Je veux pas dire qu'il y aura pas une.
Ah non, il y a
une
pas...
baisse ou quelque chose qui va arriver.
Oui, c'est vrai que les bulles se produisent pas quatre fois.
Ça fait beaucoup,
rare.
Hein.
On a 2 minutes 50, pas une seconde de plus pour évoquer ce sujet avec vous, Nathalie Janson. J'entends encore dans les débats que je mène ici dire que cette inflation n'est pas une inflation traditionnelle, c'est une inflation qui est venue d'un choc d'offres, qu'il ne fallait pas monter les taux, que de toute façon, elle décélère comme elle est venue, et que c'était prévu que ça allait se passer comme ça, et que les banques centrales n'ont rien à faire là-dedans.
Moi, j'adore cette chanson. je la trouve fantastique. Bon, écoutez, Comment dire? Je sais plus où je peux commencer.
Vous avez 2 minutes 23.
Oui, j'ai 2 minutes, je dois être extrêmement efficace. Donc, en fait, le problème, c'est que moi, je veux bien qu'effectivement, ce soit apparu et que ça disparaisse, enfin, que ça s'atténue à nouveau. Parce qu'effectivement, l'expression du surplus de liquidité, à un moment donné, s'est mis dans les secteurs des biens et des services, parce qu'on a eu de l'épargne forcée pendant le Covid, qui ensuite a donné lieu à une surdemande, et donc effectivement par rapport à une offre qui était relativement limitée, qui ne pouvait pas s'ajuster, on a eu une hausse des prix. Néanmoins, il y a de l'inflation, c'est-à-dire qu'effectivement si vous me laissez l'inflation à juste aux biens et services, bah oui, c'est vrai que là elle va refluer, je ne vais pas contester les faits, les prêts à la production le montrent. Mais si vous me prenez le fait qu'il y a des valeurs qui augmentent, bah, je suis désolée, quand on voit que le CAC 40 est à plus de 8000, qu'on bat tous les records au niveau des indices, bah je suis désolée, il y a encore de la liquidité dans le système, et ça s'appelle aussi de l'inflation. Donc peut-être qu'effectivement l'inflation, on la définit mal, c'est-à-dire qu'il serait peut-être temps un jour qu'on se réveille et qu'on mette le prix des actifs dedans, parce que là c'est vraiment là où ça opère. Mais je suis désolée, si vous avez des liquidités, une surliquidité, que vous avez des taux qui sont pas très élevés, vous avez des projets qui sont initiés qui ne tiendront pas la route, et ça c'est également de l'inflation. On appelle ça du mal investment en théorie économique, et ça existe. Alors effectivement, l'inflation par le petit bout de la lorgnette dans les biens et services, elle n'est pas si importante, et effectivement elle a été extrêmement expliquée par ce contexte Covid. Mais l'inflation, elle est là. On ne va pas me dire que des quadruplements de bilan de banque centrale, ça ne génère pas des effets réel.
Donc il fallait monter les taux.
Et
donc maintenant il faut les baisser.
Et ben maintenant non, on n'est pas obligé de les baisser. Parce que de toute façon, il y a toujours des liquidités. Moi je ne les baisserai pas, voilà.
Personnellement. Oh, comment vous osez?
Oui, j'ose.
Bon, vous pouvez me dire juste un mot sur... Parce que là aussi, c'est le moment d'y aller et on aurait dû le faire depuis un petit
Exactement.
Moment. On a été en retard pour les monter, il ne faut pas être en retard pour les baisser.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on s'amuse, n'est-ce pas?
Exactement.
Bon, comment est-ce que... Alors Pierre Moscovici, on va tous mourir, mais ça, oui. Il n'est pas le premier, et puis il y a un peu toujours la même chose, il est dans son rôle. Après, on sait bien à quoi servent les rapports annuels de la Cour des comptes, on va en parler. Et puis ces fameuses créations d'emplois, mais d'où viennent-elles? À tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Est-ce trop tard pour moi? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School, Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, auteur de La tyrannie du divertissement, Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Buchet Chastel, Rafik Smati, chef d'entreprise dans le numérique, et vous avez publié Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'IA, chez Erol. Vous vouliez réagir à ce qu'on disait juste avant, là, sur l'inflation.
Peut-être que une partie de l'inflation a été cachée par la déflation technologique, dont on sait qu'elle peut cacher une partie de l'inflation. Et la deuxième chose, c'est que ça a été montré depuis très longtemps par Cantillon, n'est-ce pas, Cantillon, qui a montré que l'effet Cantillon, c'est que l'inflation a des canaux pour se disséminer, et en l'occurrence, on l'a quand même assez bien vu dans le prix des actifs mobiliers et immobiliers depuis assez longtemps.
Ben, l'immobilier,
donc là, elle était vraiment là, effectivement, mais elle ne se répartit pas de façon uniforme.
C'est exactement.
Du coup, elle crée d'ailleurs des effets de richesse d'un côté ou de pauvreté de l'autre qui sont problématiques socialement.
En tout cas, on voit que le resserrement des politiques monétaires a eu un effet absolument indiscutable sur la production de crédit immobilier. Quand on nous dit on ne voit pas les effets des politiques monétaires, je pense que sur la production...
Il y a des secteurs où c'est une relation très stricte. Quoi.
Très rapide, finalement. Ah, oui. Ça a été assez rapide. On a vu se resserrer la production de crédit immobilier à toute allure. Ça tombe pas très bien parce que ça tombe au moment où le choc d'offres sur la construction intervient lui aussi. Ce qui nous met dans une situation globale sur le logement qui est assez inédite. Bien. Comment vous recevez les propos de Pierre Moscovici, Rafik Smati? La croissance est improbable telle qu'elle est prévue par le gouvernement. Il a d'ailleurs la même lecture sur la trajectoire de réduction du déficit. La situation est sérieuse, elle est préoccupante pour les finances publiques. Pourquoi pas un impôt exceptionnel, temporaire ? Lui qui avait pourtant inventé le ras-le-bol fiscal en 2013, il considère que la question fiscale n'est pas taboue. Pierre Moscovici nous dit l'explosion de la dette va paralyser l'action publique. Didier Migaud disait avant lui, la dette est un poison lent. Philippe Séguin disait avant lui, gare à l'explosion de la dette. Bon, ben voilà. Ben, le suivant dira la même chose, non ?
C'est une réalité. Moi, ça fait des années, comme beaucoup, je m'inquiète de la situation qui est en train de se profiler. Il y a quelque chose que je regrette amèrement. Vous savez, c'était Kennedy qui disait qu'il fallait réparer le toit quand il faisait beau. Et on a eu une période...
On l'a attribué à plein de gens, cette période.
On a eu une période où, entre les années 2014-2019, on a eu un concours de circonstances qui fait qu'on aurait dû réformer à ce moment-là. Oui, et vrai. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Moi, aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation où, précisément parce que l'opinion publique est à fleur de peau d'un côté, notre économie est fragile, il faut éviter précisément d'employer des mots qui font peur à tout le monde et s'intéresser au cœur du problème de manière pratique, concrète. Moi, ce que je vois, parce qu'effectivement, il y a un état de nos finances publiques qui est absolument lamentable, qui est même gravissime, et qui, avec ce mur de la dette qui est face à nous, moi, je vois trois leviers extrêmement pratiques sur lesquels nous devons agir. Le premier, c'est... et qui n'ont pas de conséquences sociales, et qui n'ont
pas leviers sans conséquences sociales.
Et qui n'ont pas comme conséquence d'augmenter les impôts, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'augmenter les impôts.
Ah, vous m'intéressez. Pas d'effet sur la population et pas d'effet sur les impôts.
Mais vous allez voir, d'abord, rechercher la performance publique. Prenons un exemple qui parlera à tout le monde. On a en France, dans les hôpitaux français par rapport aux hôpitaux allemands, 10 points de plus de personnel administratif. Vous avez 400 000 personnes en France, fonctionnaires qui travaillent dans des emplois administratifs dans les hôpitaux, c'est 50% de plus qu'en Allemagne, où, comme on le sait, on n'est pas spécialement mal soigné, avec une population qui, par-dessus le marché, est plus âgée que la nôtre. Donc, aller chercher la performance partout, être plus efficace. Et ça passe notamment par la numérisation.
Oui, l'intelligence artificielle aiderait beaucoup.
Et l'intelligence artificielle, ça sera beaucoup. Deuxièmement, aller chercher les gâchis. Et il y en a. Le ministre de l'économie, récemment, a évoqué la question... transports médicalisés. C'est un vrai sujet.
Quand on est, quand 5 on milliards pris, 7 hein, par an.
Quand on s'est pris 2 milliards et demi dans la vue en 15 ans, il y a un sujet. C'est-à-dire qu'on a fait 40% de plus sur les transports médicalisés hors SAMU. On pourrait parler des indemnités journalières, c'est-à-dire des arrêts maladie, où on a pris quasiment 5 milliards, 6 milliards dans la vue en l'espace de 15 ans, avec un bien-être au travail qui s'est, toute proportion gardée, relativement amélioré. Donc, il y a un sujet. Donc, un, performance publique. Deux, chasser les abus.
Dégage.
Et troisièmement, faire en sorte que la machine économique tourne et tourne mieux. Et là, on en arrive à la question du fameux taux d'emploi. Le taux d'emploi en France, qui s'est redressé, hein, qui n'a jamais été aussi élevé depuis 1975, il est quand même en deçà de 10 points par rapport à ce qu'il est en Allemagne et aux Pays-Bas. Un taux d'emploi en France, c'est-à-dire que si on remet la France davantage au travail, qui serait du niveau de celui de nos voisins, eh bien, ça serait 12 points de PIB en plus et 100 milliards de recettes fiscales en plus. Et ça réglerait une partie de l'équation. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois en même temps. Et les trois en même temps, eh ben, c'est pas d'augmentation d'impôts et c'est pas de casse sociale qui fragiliserait les plus faibles, parce qu'aujourd'hui, notre pays, de ce point de vue-là, est à fleur de peau. Et donc voilà, c'est très pratique, c'est simple, mais ça nécessite, parce que c'est pas des petits sujets, c'est des gros sujets, ça nécessite d'avoir du courage politique et une légitimité politique pour le faire.
Efficacité, gâchis, ton emploi, à votre avis, pour changer la donne, 2 ans, 3, 5, 6, 7 10.
C'est la durée d'un mandat présidentiel. Mais j'ai envie de vous dire, quelque part, ça a déjà commencé, parce que le taux d'emploi, il s'améliore, sauf qu'il faut aller plus loin. La performance publique, elle s'améliore, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que sur les trois points dont je vous ai parlé, il y a des choses qui bougent. C'est pas comme si rien n'était fait. Mais évidemment, on n'est pas au niveau des dangers qui sont devant nous aujourd'hui.
Donc ça veut dire que tout ce qui nous est annoncé depuis 15 jours, 10 milliards 2024, 20 milliards 2025 par petit, en allant racler à droite à gauche, c'est pas du tout la perspective qui est la vôtre.
Bah évidemment, il faut économiser là où on peut économiser. Si on fait des achats indus, évidemment qu'il faut aller les chercher. Mais à un moment donné, il faut voir les grandes masses. Et les grandes masses aujourd'hui de la dépense publique, c'est le poste social. Et le poste social, sans casser les acquis sociaux de notre pays, j'insiste, si on va chercher la performance d'une part et si on va chasser les gâchis d'autre part, on est capable d'aller chercher les 30 milliards. On est capable.
Vous n'avez pas attaqué les retraités, ce qui est souvent un peu un élément qui est mis avec les autres compte tenu du poids des retraites dans la dépense publique. Comment vous recevez, Olivier Babot, les mises en garde de Pierre Moscovici? C'est une habitude. Mais alors on se dit qu'un jour ou l'autre, ceux qui nous disent que le mur de la dette arrive et qu'on va se le prendre en pleine figure, Et peut-être un jour, ils auront raison.
Moi, je crois qu'il a raison. Je crois que la situation est extrêmement grave. Bientôt, le service de la dette devrait être le premier budget de l'État.
On n'est pas loin.
En 2027.
On est à 52 milliards cette année. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Aujourd'hui, c'est déjà quand même la moitié de toutes les recettes de l'impôt sur le revenu qui est absorbée uniquement par les intérêts de la dette.
Un peu plus.
C'est quand même tragique.
Je crois que l'IR, c'est même pas 100 milliards.
Un peu plus parce qu'en plus, on a une mauvaise année fiscale. Il suffit qu'on ait une mauvaise année maintenant pour que ça soit très dur, évidemment. Moi, je crois que la situation est donc extrêmement grave et qu'on est surtout, non seulement on n'a pas fait les choses au bon moment, mais surtout, on arrive à un moment où l'impasse est telle qu'elle nous empêche en partie de faire les excellentes solutions, Rafik, que tu, effectivement, auxquelles j'ai envie de souscrire, évidemment, dès demain. Malheureusement, aujourd'hui, on est à un moment où l'impasse est telle que c'est extrêmement difficile parce que même les mesures nécessaires pour arriver à s'en sortir, elles sont difficiles car, en fait, on est obligé de parer au plus pressé.
Ah là,
par exemple, on va supprimer, en fait, les investissements, par exemple, dans la transition, par exemple, les baisses d'impôts qui nous permettent, sur les impôts de production qui nous permettraient d'avoir un peu une compétitivité qui serait meilleure.
Elles sont pas remises en cause.
Elles sont repoussées.
Elles ont été étalées, mais pas remises en cause.
En fait, en réalité, pour payer le fonctionnement qu'on n'arrive pas à juguler, on est obligé de renoncer malheureusement aux investissements. Alors, la solution sur les impôts, alors exceptionnels et temporaires, ça me fait évidemment rire parce qu'un impôt exceptionnel et temporaire, malheureusement, on en connaît beaucoup qui devaient être exceptionnels et qui ont beaucoup duré. La CRDS, par exemple.
Alors, je rappelle, la CRDS voit le jour dans les années 90 pour financer l'amortissement de la dette sociale.
En tant que la CSG.
Voilà.
La CSG, la dette sociale est toujours là. Elle devait disparaître. En tout cas, la CSG est partie à 1% aujourd'hui. On sait où elle en est aujourd'hui. La CRDS, un impôt, on n'a pas toujours trouvé à l'utiliser. Donc, aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est que le bateau de dépenses de l'État est devenu fou, qu'on ne sait absolument pas comment l'arrêter, que ces solutions de modernisation seraient quand même des changements de structure très profonds qui nécessiteraient un courage politique. Et peut-être une forme de vision que malheureusement je crois on n'a pas aujourd'hui. Donc voilà, je suis très inquiet et en effet ce mur de la dette il pourrait tout à fait arriver un de ces jours.
Ouais, mais quand? Parce que c'est pas agréable un incident de crédit.
Sur Guillaume Aquet, vous voyez, c'est que je me souviens de Pierre Moscovici 2013, j'avais débattu avec lui sur Canal+, et à la sortie de l'enregistrement, j'avais dit, on est d'accord, ce que vous regardez du matin au soir, c'est le taux pratiqué par l'agence France Trésor pour placer les obligations assimilables du Trésor. Il m'a dit, mais il n'y a que ça qui compte.
Bien sûr.
On était off, il n'y a que ça qui compte. Et effectivement, le jour où ce truc-là se dégrade, eh bien, c'est là que les problèmes portent. Vous lirez à
Oui, ce qui est relativement inquiétant aujourd'hui, c'est que le sujet de la dépense publique et de la manière et du train de vie de l'État, ce n'est pas un sujet de débat public. Une grande partie de nos compatriotes considèrent que ce n'est pas un sujet parce que c'est un sujet qui est trop compliqué, qui est trop haut, qui est trop élevé. Puis surtout, on a pris l'habitude en France de sortir le carnet de chèques depuis maintenant plusieurs décennies et de manière assez facile.
Là, on recommence avec les fonctionnaires pour les Jeux Olympiques.
Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous avez un exécutif qui prend position sur la question, il le prend pas pour donner des gages à ses citoyens, il prend position pour donner des gages aux agences de notation qui peuvent nous dégrader et avoir des conséquences sur les finances publiques. En fait, la question de la dépense publique dans notre pays n'est pas un sujet politique, c'est un sujet financier. Et c'est peut-être tout le problème.
Oui, c'est vrai. Mais je persiste à penser que Bruno Le Maire avait complètement raison quand il a présenté le budget 2024 en disant « La question du désendettement n'intéresse personne. »
Mais oui.
Et je pense que ça intéresse personne.
C'est pas un sujet politique.
Le problème est toujours le même. On a sorti 150 milliards de notre chapeau, apparemment sans aucun problème. Comment tu peux expliquer maintenant qu'on est désespéré à l'idée de trouver 10 milliards ou 20 milliards?
On a changé l'échelle de valeur. Hein, le million, aujourd'hui, pour un milliard, t'as plus rien.
Un milliard, c'est rien du tout.
Je me souviens de cette anecdote, c'était un de mes camarades des Échos qui m'avait dit que, passant un jour Place Beauvau, on était, vous savez, en plein Covid ou post-Covid, il rencontre des conseillers de Gérald Darmanin. Un sujet à 900 millions, on allait plutôt cacher le ministre.
Ouais.
Voilà, c'est pas le sujet. Alors, quand on commençait à taper dans du gros milliard, là, on allait peut-être voir le responsable des lieux, mais 700 millions, oh, c'est bon, allez. Petite réaction là-dessus, je sais pas, Nathalie Janson, il y a un tel aspect déjà vu, quoi. Vos prévisions sont trop optimistes, la situation n'est pas bonne, attention danger. Vous avez vu, je vous ai cité Didier Migaud, Philippe Séguin.
On peut reprendre, en fait, c'est atemporel, en fait.
À part que depuis Philippe Séguin, la dette, elle a triplé.
Voilà, mais c'est atemporel, on peut pas se tromper. Le sujet, effectivement, je pense qu'en France, je vois difficilement la France vraiment prendre ce sujet, un gouvernement prendre ce sujet à bras le corps.
Warning du marché.
Exactement. Là, mais pour le moment, effectivement, le warning n'est pas là. Et quand on compare toutes les dynamiques de dette, voilà, on va pas, je vais pas vous redire la question du Japon. Vous voyez bien que des dettes extrêmement élevées peuvent quand même exister, puisque effectivement la particularité de nos économies développées par rapport à peut-être il y a un siècle, c'est que nous avons des taux d'épargne, et donc tant qu'il y a du taux d'épargne, il y a de l'absorption de la dette. Donc en effet, c'est inquiétant parce que c'est une dépense publique qui en fait n'est pas suffisamment décidée et orientée, parce qu'aujourd'hui il y a des urgences qu'il faut adresser, mais comme il y a une épargne qui est là, elle va absorber la dette. Et le Japon est une caricature dans ce style, puisque c'est un pays où en fait la dette est achetée en permanence
par les Japonais eux-mêmes. C'est ce qui fait que c'est si solide.
Donc on se demande effectivement jusqu'où on peut aller, mais on peut aller très loin si l'épargne mondiale ou nationale on peut avoir toutes les combinaisons possibles, est prête à acheter la dette française. Oui. Par contre, ça pose la question du rôle du gouvernement qui n'est jamais adressé, et comme il en a été débattu, je pense que par exemple l'éducation qui moi me tient à cœur, je suis désespérée de voir que ce sujet n'est pas adressé suffisamment. Voilà.
Mais on a objectivement aujourd'hui les finances publiques les plus dégradées de la zone euro. C'est vraiment la réalité. Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir un effet ou pas avec les agences de notation. On a tous redouté le pire en 2012, il ne s'est rien passé quand les AAA sont partis. On a encore du A partout chez tout le monde.
Le problème de la confiance, c'est que tu l'as jusqu'au jour où tu ne l'as plus. Et quand tu n'as plus la regagner, c'est très compliqué. Et en fait, aujourd'hui...
Si la Grèce est parvenue. Alors, je ne vous raconte pas, là, c'est de l'austérité.
C'est la vraie austérité. Mais aujourd'hui, si on ne nous prête plus, je rappelle qu'on n'est pas à l'excédent primaire, je veux dire, très très loin de là. Donc, même si on dépend de l'extérieur pour payer en fait une partie du fonctionnement en réalité en permanence.
On fera venir Javier
Milei. Ça peut être extrêmement, extrêmement douloureux.
J'avais vu André Ventura au Portugal, c'est un peu du Javier Milei à l'Europe.
Il a réussi à réduire, il a eu presque un excédent primaire, donc ça on va le ramener à la maison.
Mais j'avais regardé, je crois que la France a à peu près 5 semaines de cash pour tenir si elle ne peut pas placer ses obligations. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, vous avez une retraite sur 10 qui n'est plus payée, des fonctionnaires qui ne sont plus payés, c'est juste...
Là, il y aura une réaction.
C'est du shutdown, dans la France. Oui, là, il y aura une réaction. De toute façon, on en avait déjà parlé avec Robert Rivaton. Il me dit, le jour où on a un coup dur, on met 2 points de TVA du jour au lendemain, et puis c'est réglé.
Oui.
Ça ne fera pas plaisir, mais c'est réglé.
Il faudra peut-être un peu plus que 2 points.
L'Union européenne nous autorise à aller jusqu'à 25.
Oui.
Si vous renoncez à des...
C'est pour ça, en fait.
Si vous renoncez à des taux réduits... et que vous remettez tout ça aux alentours des 23-24, là, vous dépassez la moyenne de l'Europe, mais là, c'est bon, là, vous avez rassuré tout le monde. Mm. C'est quand même l'impôt le plus efficace du monde, la TVA.
Que dit Alain Minc, il a tout à fait raison.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Mais d'ailleurs, que c'est l'impôt le plus... qu'elle a la base large.
Ça, c'est clair.
Finalement, celui qui rapporte le plus.
Et vous avez vu,
c'est celui qui a le moins d'effet de distorsion. Ah, vous rappelez que l'avantage de la TVA...
On parle d'impôt.
Mais l'avantage, c'est que tu fais payer tes importations aussi. C'est ça qui est bien.
Tout le monde contribue.
Des gros importateurs, tu fais contribuer tout le monde.
On a réussi à retomber sur nos pieds en parlant d'impôt. On est bien français.
C'est toujours. Et à la fin, il y a toujours des impôts.
Ce que je trouve intéressant sur ce débat sur la TVA, c'est qu'on en arrive à dire que si on est au pied du mur, on sera obligé d'augmenter de 2 points la TVA. Et c'est vrai, c'est sans doute ce qu'on fera.
C'est le seul moyen pour avoir les milliards à la fin du mois.
Oui, mais justement, mais moi,
tu les as tout de suite.
Là,
t'es 11 milliards ou t'es 12 milliards ou 15 tout de suite.
Ça, Nicolas, ça s'appelle être en réaction.
Moi, je préfère.
Il
n'y
a pas d'effet sur la consommation. Moi, je préférerais qu'on se pose la question de l'augmentation de la TVA maintenant. Pour financer notre modèle social et baisser en contrepartie les charges de nos entreprises. C'est partant calme, si tant est qu'on puisse appeler le temps actuel partant calme, mais en tous les cas, on n'est pas aujourd'hui au pied du mur tel que dans 2 ou 3 ans. C'est maintenant qu'il faut se poser toutes ces questions-là. Que si on est là, mais on le fera mal et on le fera sans doper l'entreprise. Alors que si on réfléchissait à un mécanisme intelligent aujourd'hui, on pourrait certes augmenter la TVA, mais renforcer la compétitivité de nos entreprises et faire peser notre modèle social sur la consommation. Ce qui serait une bénédiction pour les dizaines d'années à venir.
Oui, tu vas expliquer aux gens que tu fais de l'inflation.
Ou pas.
Si, avec la TVA, si. Il y aura un phénomène d'inflation, forcément. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut augmenter le salaire net.
Mais c'est
si
le but.
On utilise la TVA sociale, notamment.
C'est le but.
Alors que la CSG, là, on va taper directement sur le pouvoir d'achat de tout le monde. Bon, on va arrêter de parler d'impôts, ça démoralise les gens.
Oui, c'est démoralisant.
Mais je suis assez de votre avis temporaire, exceptionnel.
Incroyable.
Chaque fois qu'on a ce genre d'idée. Vous avez vu qu'il y a des idées de prélèvements obligatoires qui ressurgissent un peu partout, là, à l'Assemblée nationale. Il y a des élus qui ressortent des idées. Tiens, les rachats d'actions. Voilà, il y a plein de petits trucs.
C'est facile, ça. C'est tellement facile.
Oui. Bon, à côté de ça, moi, je veux bien qu'on. Enfin, on va pas avoir un débat sur les rachats d'actions. Je sais qu'il y a des circonstances où ça a du sens, le rachat d'actions. Distribution d'actions gratuites, on stérilise une partie du capital, c'est cohérent. Quand on voit les montants qu'on atteint aujourd'hui en rachat d'actions, notamment aux États-Unis, on peut quand même s'interroger sur ce mécanisme de gouvernance. Bon, je... L'emploi. Ce chiffre vous a fait réagir, notamment Rafik Smati. 440 000 créations d'emplois dans la zone euro au quatrième trimestre 2023, c'est merveilleux. Il n'y a pas de croissance. Voire, il y a des pays, des gros pays en récession. Ça vient d'où ? Est-ce qu'on peut se réjouir d'avoir des créations d'emplois sans croissance ?
C'est un sujet qui est très intéressant, qui montre à quel point une nouvelle peut être extrêmement biaisée. On vous dit 400 000 emplois créés en Europe, on se dit c'est extraordinaire, c'est 400 000 chômeurs de moins. Et on peut objectivement se réjouir pour les personnes qui ont trouvé un job, qui étaient peut-être pour certaines d'entre elles en situation de précarité. Et donc c'est génial. Mais si on tire le fil, on se dit que, certes, on a créé des emplois, mais on n'a pas produit plus, puisque le PIB, lui, n'augmente pas de manière significative. Donc, on produit autant qu'avant, avec plus de monde. Donc ça porte un nom, c'est la baisse de productivité. Et donc, on est en train... Alors, c'est pas nouveau, la baisse de la productivité baisse dans notre pays et en Europe depuis maintenant quelques années.
Mais 2019, à peu près, oui.
On est en train d'entériner l'idée qu'on rentre dans une période de baisse de productivité. Et la baisse de productivité, vous avez beau retourner le problème dans tous les sens, c'est une mauvaise nouvelle sur le moyen et sur le long terme. Personne ne peut se réjouir qu'une économie devienne moins productive. Donc, parfois, derrière une apparente bonne nouvelle, se cache des nouvelles qui, si on regarde ce qu'il y a derrière, ne sont pas forcément si bonnes que ça. Et la question de la productivité aujourd'hui, et en corollaire la question du taux d'emploi, c'est ce qui devrait mobiliser aujourd'hui la puissance publique. Si on réussit à faire mieux travailler les Français, et donc par extension les Européens, parce que c'est de ça dont il s'agit, si on réussit à atteindre un taux d'emploi important et être productif, eh bien on sera capable de faire de grandes choses et de résoudre quasiment tous les problèmes dont on a parlé aujourd'hui autour de ce plateau-là. Tous. Et de ce point de vue-là, la technologie, l'intelligence artificielle, la robotisation, ça va être des game changers majeurs.
Je ne suis pas sûr, Rafik Smati, que beaucoup de politiques maîtrisent le terme de productivité. C'est-à-dire ce rapport entre le volume de production et les ressources mises en œuvre pour obtenir ce volume de production, le travail en tête. Je ne suis pas certain que cette notion de productivité soit quelque chose qui soit présent dans les esprits.
Quand vous dites que vous n'êtes pas certain,
j'entends par exemple
rarement
Bruno Le Maire en parler. Et pourtant, je lui ferai pas le procès de ne pas savoir de quoi il se passe, de quoi il s'agit.
Mais il va falloir avoir le courage de dire simplement qu'un ministre de l'économie aille sur un 20h et dire nous devons produire mieux et nous devons produire plus. J'ai envie de vous dire de manière un petit peu provocatrice, quoi qu'il en coûte. Voilà quel devrait être le quoi qu'il en coûte. On va produire plus et on va produire mieux. On ne peut pas imaginer rentrer dans un monde...
Il faut finir la phrase, Rafik. Il faut produire plus et consommer moins. Parce qu'un pays qui est en déficit de sa balance des paiements courants est un pays qui consomme plus qu'il ne produit.
On ne peut pas rentrer dans un monde, et là je vais donner la parole à mon ami, où la culture du divertissement est érigée en religion et que l'on perd de vue la valeur cardinale qui consiste à dire que nous devons travailler, que nous devons produire. Parce que si on ne travaille pas et si on ne produit pas, ce sont les autres qui vont le faire pour nous. Les autres. Et on va le racheter. Et ça va nous coûter cher. Et on va perdre notre souveraineté dans tous les domaines.
Mais vous avez vu le phénomène qui s'est installé depuis Covid totalement nouveau, c'est l'absentéisme qui a pris une part absolument monumentale dans tous les pays. Donc vous dites, si on ne travaille pas seulement, je doutais un petit peu de cette histoire de changement du rapport au travail, je commence à me demander s'il n'y a pas des choses beaucoup plus profondes que ça et qu'on n'a pas encore tout vu. Et que ça fait partie des éléments
mais même le
parmi d'autres.
Même le télétravail devient un acquis social aujourd'hui.
Oui.
Ça va très loin.
En tout cas, c'est un argument pour choisir un emploi, oui.
Vous avez vu ce qui s'est passé chez SAP ? Ils étaient passés à 5 jours par semaine de télétravail. Le patron a tapé du poing sur la table en disant « Maintenant, il faut revenir minimum 2 jours ». Pétition de 1500 salariés, d'un coup d'un seul, qui menacent de démissionner en bloc si on les oblige à revenir travailler dans les locaux. C'est un truc de deux. Sur cette productivité, Olivier Babeau, vous avez une réflexion, Nathalie Janson ?
On peut faire beaucoup de
procès. C'est multifactoriel,
Oui, bien sûr. On peut faire beaucoup de procès en incohérence à Emmanuel Macron depuis le début de ses quinquennats. Il y a un sujet sur lequel il n'a jamais bougé. Et je pense que le diagnostic est vraiment le bon. C'est qu'il faut que le travail paye mieux, paye plus, soit plus intéressant.
Gabriel Attal le dit quasiment toutes les semaines.
Et c'est tout à fait vrai. Et alors, augmenter le salaire net par rapport au super brut, c'est tout à fait vrai. Et je pense qu'il faudrait que l'idée de la TVA sociale est par exemple une bonne idée. Faire que peut-être que notre système, qui est encore le plus généreux d'Europe, si ce n'est du monde d'ailleurs, soit peut-être un petit peu plus incitatif quand il le faut pour avoir la bonne protection, mais toujours incité. Il faut regarder le taux d'emploi.
Pensez à l'assurance chômage.
Et la productivité, c'est les deux choses qui
nous intéressent. Olivier Babeau, pensez à l'assurance.
Évidemment.
Parce que quand on parle de taux d'emploi...
Sur la durée notamment, qui reste extrêmement longue.
Donc c'est aujourd'hui, on est à 18 mois en dessous de 53 ans. je crois qu'en dessous de, au-dessus de 55, on est tombé à 27, on était à 36, puis on doit être un peu au milieu entre 53 et 55 ans. Parce que vous parliez de taux d'emploi dans votre triptyque magique, hein, l'efficacité, lutter contre les gâchis, le taux d'emploi. La réforme des retraites est une réforme susceptible d'augmenter le taux d'emploi. L'idée, c'est que la réforme de l'assurance chômage, c'est l'autre réforme. Vous pensez que c'est celle-là qu'il faut engager, réengager ? Il y en a déjà eu deux tout récemment.
Mais absolument.
Absolument.
Mais évidemment.
Oui, mais ça va contre l'idée de mener des politiques contracycliques qui était l'engagement qui avait été pris par l'exécutif. Donc quoi ? Tomber à 14 mois la durée d'indemnisation comme en Allemagne ?
En tout cas, elle a changé en fonction de la situation économique.
C'est l'idée.
Bien sûr, ça va de pair avec un accompagnement qui est peut-être, qui était pour l'instant un peu le parent pauvre des politiques, hein, de l'emploi. C'est que l'accompagnement était un peu, peut-être pas trop au niveau. Hein. On était très bon pour l'indemnisation, ça c'est super. Mais la côté accompagnement, il peut être beaucoup, beaucoup plus raffiné. Alors, d'autant plus qu'on sait qu'il y avait une partie des gens qui sont très éloignés de l'emploi et ces gens-là, ils demandent vraiment un accompagnement spécifique
et ne pas oublier
des apprentissages spécifiques.
Et ne pas oublier que il y a la situation de Paris-Centre et des Ardennes, pour schématiser. Mmh. La situation dans notre pays n'est évidemment pas homogène. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de concevoir et de penser à la politique du travail et de l'indemnisation chômage de manière uniforme sur tout le territoire, parce que, évidemment, les
règles ne
sont pas les mêmes.
Une politique d'assurance chômage à géométrie variable en fonction des territoires.
Oui, et d'ailleurs, ça a été, je crois, dans les tuyaux ou plus ou moins étudié. Il y a eu un ballon d'essai dans ce sens-là il y a quelques mois, mais je pense que oui. Quand vous allez dans la France périphérique, ce n'est pas comme si vous êtes en centre-ville.
Il y a un problème de mobilité qui se pose, qui est aigu, pas en région parisienne.
Oui, d'accord.
Parce que moi, j'entends sur vos plateaux quelquefois, voilà, ceux qui disent qu'en fait, ça n'a pas d'impact. Enfin, je suis toujours un peu dubitative.
De quoi n'a pas d'impact, pardon ?
La durée de l'assurance chômage et que c'est pas bien parce que si on la réduit, les personnes seraient obligées de prendre un travail pour lequel ils sont les moins qualifiés. Enfin, honnêtement. Enfin bon, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas me lancer, voilà. Mais je suis très dubitatif. On est quand même clairement, quand on compare les pays, on voit bien que chez nous, il y a quand même un problème de prise d'emploi. Et effectivement, quand vous parlez en région avec des gens qui recrutent, vous voyez bien que le problème de la mobilité se pose.
Clairement,
donc quand vous avez une indemnité qui a un nombre de mois plus élevé et que vous voulez pas, enfin que vous avez un problème de mobilité, donc vous trouvez ça trop pénible d'aller ailleurs, bah effectivement vous attendez. Donc, et si vous attendez, bah, c'est moins bien. Et si c'est moins bien, bah, vous allez retomber dans une situation peut-être moins bonne encore. Donc, moi, je suis un peu partagée sur les études sur le sujet, parce que je me demande comment elles sont faites, et parce que on voit bien qu'il y a un problème en France, en tout cas, de mobilité en région. Il est très aigu, ce problème.
C'est un peu le problème des études, Nathalie Janson, c'est qu'en fait, elle vous donne des observations globales, qui seront forcément mal perçues par des gens qui vont regarder leur cas individuel par rapport à l'observation globale. De l'un des meilleurs spécialistes qui est Stéphane Carcillo qui vient ici et de dire au bout de 6 mois au chômage l'employabilité s'abîme.
Exactement.
Mais c'est global, peut-être que quelqu'un qui y passe 8 mois est super employable au bout de 8 mois. L'autre observation qu'il fait, toutes les études montrent, dit-il, que le curseur le plus efficace, c'est la durée d'indemnisation, pas le montant, la durée.
Non, c'est la durée,
Le fait de réduire la durée est un accélérateur des incitations au retour à l'emploi.
Oui, oui. Non,
mais vous allez trouver l'exemple
Éric Heyer, vous défendez l'idée inverse. Oui. Donc c'est pour ça qu'il disait qu'effectivement, c'est un appauvrissement, une paupérisation des salariés. Bon, j'ai quand même pas l'impression qu'en France, on soit dans cette dynamique
Éric
de paupérisation.
Éric Heyer est constant. Il défend l'idée qu'on doit mener, c'est l'histoire de on répare le toit quand il fait beau et on lâche
un peu. Non, mais par contre, ça, il n'a pas tort. Mais en même temps, il est clair que la durée de l'indemnisation a un impact. C'est clair.
L'histoire de la désmicardisation, l'histoire du travail, il doit vraiment mieux payer que l'inactivité, c'est le dada de Gabriel Attal. Le seul élément concret de choix politique mis en avant pour essayer d'y parvenir pour l'instant, c'est la fameuse réforme de l'assurance chômage. Parce que la complexité, Dieu sait si on l'a évoqué ici, pour se dire, tiens, on sort de la trappe à bas salaire, c'est juste un truc inextricable. Vous vouliez réagir
vis-à-vis. Oui, il y a un contresens qu'on fait souvent sur l'assurance chômage. On entend ça comme c'est un droit, donc j'ai le droit à avoir 18 mois. Mais si vous êtes assuré contre l'incendie, c'est pas pour ça que vous allez mettre le feu régulièrement à votre maison, parce que vous êtes assuré. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui doit être limité aux gens qui ont un risque, et c'est une forme de mutualisation du risque, c'est le principe de l'assurance. Mais si tu peux l'éviter, tu dois le faire. C'est peut-être aussi une question d'état d'esprit.
Oui, voilà. On va avoir un accident de voiture parce qu'on est
bien assuré, bien couvert. Ça s'appelle l'aléa morale d'ailleurs, mais c'est documenté.
Excellente émission, excellents invités. Oh, c'est sympa ça.
C'est gentil.
Oh, merci.
Je ne m'attendais pas à entendre parler d'Ethereum. Voilà.
Oui.
Faites un carton.
Ah là là.
Bon, eh bien, écoutez, voilà. En attendant, on va taxer les voitures chinoises en Europe. Et puis, il faudra payer 100 euros pour se former. Ça vous choque qu'on ait mis le permis moto dans les formations, là ? Parce que visiblement, c'est...
Pour les livreurs, peut-être, j'en sais rien, moi.
Non, le coût du permis moto, c'est...
Pourquoi pas la moto ?
C'est la deuxième formation la plus demandée.
C'est parti, la mobilité.
Ouais, mais bon, est-ce qu'on a forcément besoin du permis moto pour ça ?
Bah, si on est livreur, à niveau...
Oui, oui, enfin... Je suis pas un pro là. Il y a peut-être encore des trucs qui se conduisent sans permis. Je sais pas.
Oh non, pas grand chose.
Si, les moins de 50, non ?
Oui, les moins de 50.
Moi, à mon époque, avec le permis B, tu pouvais conduire une. Oui. Je sais plus combien.
Moins plus d'une 125, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Tu peux avoir. Je sais plus où on en est.
Mais tout le monde n'a pas son permis B.
Oui, alors. Non, mais,
surtout dans la France.
Non, mais qu'on aille chercher le permis de conduire, le permis moto, que ce soit la moitié des formations, ou alors ceux qui veulent apprendre le hongrois.
Comment ça, le hongrois?
Je sais pas,
c'est une langue tout à fait respectable.
C'est
un pays très intéressant.
Non, voilà, l'idée... Ah, moi, j'ai une bonne question. Attends, mais je la poserai à 10h30. Est-ce qu'on doit forcément mettre des contraintes et des nouvelles réglementations devant des politiques qui fonctionnent parce qu'elles ont créé des effets d'aubaine? Ça, c'est pas un bon débat, ça. Mm. On le voit dans des quantités de domaines, l'histoire de l'apprentissage, par exemple. Bon, allez, on en a fini. Nathalie Jeanson, vous reviendrez à 100 000 dollars?
Ah, bah oui.
Non, avant.
Ah, j'avais
avant.
Une petite citation qui était
alors,
sympa.
Vite.
C'est, oui. Les idiots, on a dit que les idiots sont ceux qui dansent. Aujourd'hui, on va dire que ceux qui sont encore plus idiot regarde.
D'accord. Merci à vous, Olivier Babot. Et puis Rafik Smati, rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.